foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenet, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 5 février 2020. Alors bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui nous submergent parfois et qui, je dois le dire, avec les sujets d'aujourd'hui, des fois nous font peur. Alors, ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, ce sont trois commentateurs qui viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente. D'abord, Francis Daou, bibliste et directeur général de SOCABI, la Société catholique de la Bible. Bonjour, Francis.
Bonjour, François.
Participe aussi à cette table ronde Simon Maltais, éditeur adjoint, livre religieux aux éditions Novalis, Bayard Canada. Bonjour, Simon.
Bonjour, François.
Et enfin, Froid et Turbulence accueille aussi cette semaine Yves Casgrain, journaliste indépendant. On peut lire ses articles chez Présence et dans Le Verbe. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, il sera question du coronavirus, du plan de paix du président Trump et du troisième anniversaire de la tuerie de la mosquée de Québec. Mais tout d'abord, allons-y avec la question de l'aide médicale à mourir. Alors, le grand débat sur l'aide médicale à mourir reprend. Rappelons que l'aide médicale à mourir est devenue légale au Canada en 2016. Le Code criminel du Canada contient désormais des exemptions pour les médecins et les infirmiers qui fournissent ou aident à fournir de l'aide médicale à mourir. Des provinces canadiennes ont aussi adopté leur propre loi sur l'aide médicale à mourir. Au Québec, la loi a été contestée et le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a conclu qu'il était inconstitutionnel de limiter l'accès à l'aide médicale à mourir aux seuls personnes en fin de vie. L'abandon du critère de fin de vie ouvre la porte de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont en souffrance, mais qui ne sont pas mourants ou encore qui souffrent de maladies mentales sévères. Cela veut dire que dès le 12 mars, les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, incurable et qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elles jugent tolérables, pourront obtenir l'aide médicale à mourir, même si elles ne sont pas en fin de vie. Yves Casgrain, c'est un débat qui devient de plus en plus fort là, ces jours-ci, parce que c'est toute la question de la santé mentale là, qui est au cœur de ça.
Oui, c'est un gros problème, une grosse étape qu'on vient de franchir, parce que ce n'est pas une maladie physique avec une fin plus ou moins prévisible, avec des souffrances physiques qu'on peut plus ou moins bien mesurer. C'est plutôt dans l'ordre du non concret, en fait. C'est vraiment pas concret. Ça se transmet plutôt par une opinion, si on peut dire, de la personne, c'est-à-dire qui va voir un psychiatre et qui dit « Maintenant, ça suffit, je suis tanné de souffrir et de vivre ce que je vis là. » Et que, bon, après de multiples essais, tentatives de soins, parce qu'il faut se rappeler que la santé mentale, les problèmes de santé mentale dont on parle, ce n'est pas le burn-out ou ce n'est pas une petite dépression, c'est vraiment quelque chose de sévère et permanent. Donc, il n'y a pas de guérison possible. Ce qu'on dit, c'est plutôt une capacité à s'adapter à la maladie et à faire une vie quand même assez, assez bonne. Alors, c'est extrêmement complexe. Moi, tous les articles et les opinions d'experts que j'ai lus, c'est un casse-tête pour eux de déterminer si oui ou non on peut dire oui à la demande d'une personne qui veut mourir parce qu'elle est tannée de vivre ce qu'elle vit là. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas aussi... Déjà que c'est difficile d'analyser quand c'est physique, quand c'est psychologique ou psychotique, c'est encore plus difficile.
Mais au fond, ce qu'on comprend, là, écoutez, depuis l'adoption de la loi là, canadienne, il y a eu 6700 personnes là, qui se sont prévalues de l'aide médicale à mourir, donc qui étaient en fin de vie prévisible. Leur jour était compté et ils ont pris la décision de recourir à l'aide médicale à mourir. Ils en ont parlé avec leur médecin, ils ont eu des opinions qu'il fallait selon un protocole très strict et ils ont obtenu l'aide médicale à mourir quelques jours, quelques semaines, peut-être avant la date fatidique, parce qu'il y avait le critère de fin de vie. Là, dans ce cas-ci, on enlève ce critère-là. Est-ce que justement, c'est pas un problème là, qui va au-delà de la question de la santé mentale? Je pose la question à Simon. Est-ce que c'est pas justement tout un débat de société là, qu'on a à avoir de ce côté-là?
Oui, tout à fait. Puis, bon, on sent qu'il y a au début, il y a eu une volonté de la part du gouvernement de ne pas embarquer dans un débat de société. Puis bon, il y a eu un certain recul de cette part-là. Je suis désolé de faire un peu de rétro-pédalage moi aussi, mais je voudrais juste reparler un petit peu de la question de la santé mentale mm-hmm. en parlant d'un cas qui est la situation qui se passe en Belgique. Parce que bon, okay. La Belgique est une pionnière, on pourrait dire,
de l'aide médicale à mourir
depuis 2002. Et en fait, même depuis 2002, les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent en faire la demande. Donc, on a déjà un cas de figure qui existe depuis presque 20 ans de cette situation-là. On sait, au niveau des chiffres, en 2018, sur les 2357 demandes qu'il y a eu d'aide médicale à mourir, il y a seulement 2% qui ont été demandées pour concerner des personnes.
Demandées et acceptées, peut-être.
Demandées et acceptées concernant des personnes ayant des troubles mentaux. Des troubles mentaux. Mais par contre, là où est-ce que c'est intéressant pour nous, c'est qu'il y a un procès en cours en ce moment, le cas d'une dame de fin trentaine, 39 ans, si je me rappelle bien, qui a été euthanasiée en 2011 et en 2009, mais le procès, la demande en justice a commencé en 2011, où est-ce que finalement on reproche aux médecins d'avoir agi de façon prématurée et que les protocoles n'auraient pas été respectés. Ça se passe en ce moment, c'est depuis la mi-janvier tous les jours, il y a des nouveaux rebondissements dans cette affaire. Donc, avant d'élargir on comprend la position de la Cour suprême du Québec, mais avant d'élargir de façon rapide et automatique, je pense que ça vaut la peine de regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour voir comment finalement cet accès-là s'est traduit dans les faits dans ces sociétés-là.
Alors, je vous rappelle que c'est le 11 septembre 2019 que la Cour supérieure du Québec a conclu dans un cas très difficile. Là. C'était deux personnes fortement handicapées qui étaient aux prises avec d'énormes souffrances, mais qui n'avaient pas une fin de vie prévisible. Alors, ils pouvaient continuer pendant des mois, peut-être des années à souffrir et tout ça. Et la Cour a dit, écoutez, c'est carrément inconstitutionnel de limiter l'accès de l'aide médicale à mourir aux seules personnes qui sont en fin de vie parce qu'ils répondent, ces gens-là, à l'ensemble des critères. Une des choses que les gens disent, en tout cas les opposants, par exemple, de l'aide médicale à mourir, c'est que ça l'ouvrirait la porte à un paquet de situations qui pourraient devenir problématiques. On pense, par exemple, aux personnes qui sont malades d'Alzheimer. Elles ne peuvent pas signer un tel papier. Elles sont visiblement condamnées à cette maladie-là. Ce n'est pas une maladie de fin de vie, mais ce critère-là n'existe plus. Mais en même temps, ce sera d'autres personnes qui pourraient prendre la décision. Ou encore, on devrait respecter une décision prise un an, deux ans, ou même aujourd'hui, où vous vous dites, j'écris, si jamais j'ai la maladie d'Alzheimer, je veux me prévaloir de l'aide médicale à mourir. C'est ces dernières pages-là qu'on craint actuellement.
Oui, effectivement, François. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est que ça ouvre la porte à différents cas auxquels on n'avait pas réfléchi. On pourrait y reparler, en reparler de ça, de la façon que la loi a été passée, puis la rétroaction là, du gouvernement. Mais ça ouvre la porte pour, en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables. Et bon, on a parlé bon des cas de maladies mentales, principalement, mais il y a aussi le cas des personnes handicapées qui ont très mal accueilli cette nouvelle-là et qui se sentent en danger par rapport à ça, en se disant, mais là, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que eux, ils expliquent, bon, on a une détresse, on n'a pas une détresse physique en tant que telle, on n'a pas une souffrance physique. J'en parle parce que j'ai un ami qui est dans un cas comme ça, il dit, j'ai pas mal, Francis, il dit, je sens rien. Mais il dit, mais des fois, il peut avoir une détresse psychologique, je peux avoir mal psychologiquement, je peux être inquiet. Et puis, il dit, mais là, cette nouvelle politique-là, cette nouvelle loi-là vient ouvrir des possibilités et ça me fait peur, j'ai peur de me retrouver dans un CHSLD. Lui, il est à la maison, c'est sa grande sœur qui s'occupe de lui, mais il dit, si je me retrouve en CHSLD, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va me l'offrir? Les conditions de vie que je vais avoir? Quelles vont être ces conditions de vie-là? Il dit, j'ai peur de me retrouver là et d'avoir, qu'on me dise, de sentir le besoin de demander l'aide à mourir. Et puis, c'est dans le cas des personnes handicapées, t'sais, mais dans le fond, on veut pas se rendre jusque-là. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est donc pas de nous offrir une solution de mettre fin à nos jours, c'est de nous offrir bon des meilleurs services qui vont faire en sorte qu'on pensera pas à cette option ultime là.
Ouais, enfin, ou que personne d'autre dans la famille va nous le proposer de façon insistante même. Certaines personnes craignent. Mais voici que le gouvernement Kakis, par exemple, il y a ces derniers jours, a décidé que l'Assemblée nationale n'aurait pas son mot à dire sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, parce que, bon, la loi, donc, est déclarée inconstitutionnelle. Cet article-là de la loi du Québec est déclaré inconstitutionnel. Alors, normalement, le Parlement, la Chambre, l'Assemblée nationale aurait dû se réunir pour voter une nouvelle loi. Le gouvernement Kakis dit non, c'est pas nécessaire. À partir du 12 mars, toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans une situation très, très difficile, mais qui ne sont pas en fin de vie prévisible, vont pouvoir se prévaloir de ça. Ça a fait tout un tollé. La ministre de la Santé, Danielle McCann, s'est depuis ravisée. Elle a annoncé la tenue d'une journée de consultation populaire au sujet de l'accès élargi à l'aide médicale à mourir. Ça vous fait sourire, oui. Yves? C'est assez?
Une journée pour débattre de ça. C'est bien. Il y a des gens qui passent toute leur vie à étudier le phénomène de la santé mentale, la complexité de tout ça. Et en une journée, on aurait pu régler le problème de l'aide médicale à mourir offerte à ces personnes-là. C'est insensé. Je pense que ce sont des personnes. Le parti, je ne sais pas comment il fait pour gérer ce genre de situation-là. Est-ce qu'ils se réunissent? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre le téléphone, puis on va téléphoner à quelques personnes expertes en la matière, avant de statuer? Je ne sais pas comment ils font. Ça me dépense.
Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'encore une fois, en tout cas, on a agi avec précipitation? On se rend compte que la loi va être changée, qu'on a l'échéance du 12 mars, et là, on y va. Allez-y, Francis.
C'est un scénario, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, ce scénario-là. On l'a vu avec la question de l'immigration. Simon Jolin-Barrette avait annoncé une loi. Il est revenu, dit « Ah, mais finalement, on n'avait pas considéré telle et telle chose. » On a ce cas-là. On a le cas aussi c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais celui des cours d'éthique et culture religieuse. Oui, on dit, on les retire. Ah, mais finalement, là, il y a une réaction. Oh, on n'avait pas prévu ça. Alors, on va avoir une consultation. Il paraît, que c'est un petit peu compliqué là, pour la consultation. mais quand ça fait, une fois, tu sais, ça arrive. Deux fois, c'est possible. Trois fois. Mais là, ça semble être vraiment un pattern qu'on retrouve constamment avec la CAQ. Et, on peut être un peu parano et se demander, est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on se dit, on essaie de passer des lois. Si ça marche pas, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va se raviser. Puis, vu qu'on recule, on paraît bien. On a l'air plus nuancé. On est à l'écoute des gens. Donc, on les écoute pas au début, on va les écouter en deuxième. c'est ça qu'on va retenir.
Mais on va les écouter au moins dans une journée de consultation. Alors, vous aurez l'occasion de prendre la parole sur le sujet. Alors, je vous rappelle que le Code criminel du Canada contient des exemptions pour les médecins qui fournissent l'aide médicale à mourir, mais que le 11 septembre, la Cour supérieure du Québec a conclu qu'il était inconstitutionnel de limiter l'accès de l'aide médicale à mourir aux seules personnes en fin de vie. Alors, le 28 janvier dernier, le président américain Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient, un plan de paix qui est fondé sur une solution à deux États. Alors, ce plan compte la reconnaissance de l'annexion par Israël des colonies qu'il a implantées en Cisjordanie occupée, ainsi que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivise de l'État israélien. Quant au futur État palestinien, il serait petit, moindre en tout cas que la totalité des territoires occupés depuis 1967 par Israël et que réclament les Palestiniens avec l'appui de l'ONU. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était présent lors de la présentation de ce plan, a salué une journée historique, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a appris probablement lors de cette conférence de presse-là l'existence de ce plan-là, a affirmé que le plan ne passerait pas et que Jérusalem, la capitale palestinienne, ne saurait être concédée aux Israéliens. On a l'impression, en tout cas, Simon, que de ce côté-là, on a affaire à une histoire d'improvisation, non?
Non, je pense pas que c'est une improvisation.
Même pas.
Non, je suis désolé. En fait, ça fait depuis qu'il a été élu, Donald Trump, dès 2007, qu'il a mandaté son gendre, oui, Jared Kushner, à trouver une solution, selon lui, au problème du conflit israélo-palestinien. Une improvisation, non, mais disons que c'est de la géopolitique à l'américaine à la Trump. Classique, c'est-à-dire axé non pas sur des besoins vraiment internationaux ou sur une perspective de règlement à long terme internationaux, mais plutôt dans une perspective très de politique intérieure. Donald Trump, quand on le regarde agir à l'international, il faut toujours garder en tête qu'il le fait pour avoir des votes, pour avoir des points, pour avoir de l'appui dans son pays. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une cohérence pour avoir une vision globale humaine plus large et plus harmonieuse? Non. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de protectionnisme américain qui sort de ça? Bien sûr. Donc, je ne pense pas que c'est de l'improvisation. Maintenant, on parle d'une solution à deux États en théorie, mais en pratique, on parle pour les Palestiniens, c'est un État minuscule, démilitarisé. C'est à toute fin pratique, aucune reconnaissance politique des Palestiniens. Donc, ça n'a une solution à deux États que de non seulement. Donc, je sais pas. Et de toute façon, il y a toujours la question de la légitimité américaine de s'ingérer finalement dans une affaire qui est à toute fin pratique entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc,
alors, allons-y du côté des réactions. Alors, bon nombre d'États, en tout cas, ont dit que ça n'avait pas de sens, cette histoire-là, qu'effectivement, il faut avoir deux États, mais que c'est clair que les deux États doivent être à la table de négociation pour en discuter. Allez-y, Francis.
Oui, bien, j'ai vu une caricature récemment qui, je pense, résumait bien la situation. On voyait le président Carter avec Anwar el-Sadat et puis Menachem Begin. On voyait Clinton aussi, bon, à l'époque avec Yasser Arafat et puis Yitzhak Rabin. Et puis la troisième, c'était Trump avec Benjamin Netanyahou. Donc,
La contrepartie palestinienne.
C'est ça, exactement. Donc, ils n'ont pas du tout été consultés dans cette chose-là. Et dans ce que Simon disait, il y a un point qui, je pense, qui est très important de se souvenir. On dit c'est le plan de Donald Trump, mais Simon a souligné que c'est Jared Kushner qui s'occupe de ce dossier-là.
Son gendre.
C'est son gendre. Et on aurait mis ça dans un roman ou dans un film, François, on aurait dit, non, ça passe pas, là, c'est pas réaliste là, de penser à ça. Donc, il faut se poser la question, c'est qui Jared Kushner? Donc, c'est quelqu'un qui avait aucune expérience en politique. C'est le gendre de Donald Trump. Donc, il y a un conflit d'intérêts.
Il n'est pas élu.
Effectivement. Donc, aucune expérience là-dedans. C'est quelqu'un qui a fait... son père a fait fortune dans l'immobilier et il y a eu des... bon, il a été perdu sa fortune pour des questions de fraude aussi. Donc, on voit un petit peu le contexte. Et il faut pas oublier, c'est un juif orthodoxe aussi. Donc, Ivanka, si je me souviens bien du nom de la femme, de la fille de Donald Trump, elle s'est convertie au judaïsme pour pouvoir marier Jared Kushner. Et là, on demande à un juif orthodoxe de régler le problème de la question palestinienne directement avec le premier ministre israélien. Ça fait aucun sens.
Alors, pas de surprise de votre côté?
Non. Je pense qu'il faut aussi souligner la part, bien sûr, de la droite chrétienne. Je pense que c'est important aux États-Unis. Donc, c'est peut-être aussi un message aussi lancé à la droite chrétienne. Les élections arrivent aussi, donc je pense que ça joue beaucoup aussi. On connaît la position, disons, religieuse de Trump par rapport à Israël. Du coup, je ne sais pas si ses convictions sont vraiment solides, mais en tout cas, bref, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il laisse entendre. Pourquoi? Ben, pour, évidemment, contenter la droite chrétienne, qu'un bon nombre de la droite chrétienne, en tout cas, a voté pour lui.
Donc, et il serait d'accord, justement, avec la présence d'un plus grand Israël.
Oh, exactement.
Okay, alors, une question de courtiser,
eschatologique
ça. Oui. Voilà. Alors, ben, rappelons que le Canada, de son côté, a immédiatement réagi, en tout cas, à la présentation. Le Canada soutient depuis longtemps que la paix ne peut être obtenue que par des négociations directes entre les deux parties. Nous exhortons les deux parties à établir les conditions nécessaires à la tenue de ces négociations, a dit François-Philippe Champagne, le ministre canadien des Affaires étrangères, dans un communiqué qui a rendu public dès la présentation du plan de prêt du président Trump. C'est pas des mots courageux, j'imagine, qu'on entend ici, mais quand même, c'est le pied à terre. Là. On met notre pied à terre et on dit, ben nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, Simon.
Ben oui, tout à fait. On peut pas dire effectivement parler d'un geste courageux, mais en même temps, on peut pas. C'est relativement fort comme geste. Si on regarde, on pourrait dire l'absence de tollé qu'il y a eu malgré tout à la suite de cette annonce-là dans le monde arabe. Je veux dire, oui, il y a eu des États qui ont dit non, il faut que tout le monde s'assoie, mais les Palestiniens n'ont plus le soutien continu, constant et inamovible, on pourrait dire, du monde musulman. Donc, avoir cette posture-là, finalement, ben c'est finalement pas si mal, on pourrait dire. Les églises chrétiennes en Orient, pour la plupart, ont toutes aussi signalé que plutôt que de régler quoi que ce soit, ce plan-là ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Mais les Palestiniens, dans les dernières années, en fait, se sont retrouvés de plus en plus isolés. Même l'Arabie saoudite, qui est un ennemi acharné d'Israël, a fait des rapprochements avec Israël dans les dernières années aussi.
Donc, et il conclut que ce plan de paix-là mérite au moins d'être étudié.
Exactement. Donc, on est très loin de la réaction du monde arabe après la guerre de 1967 et les conquêtes israéliennes de cette époque. Là, on est à des années-lumière de ça.
Et même lorsque le président Donald Trump avait dit que Jérusalem devrait être la capitale de l'État d'Israël, alors il y avait eu des émeutes, il y avait eu beaucoup de violence. Alors, effectivement, on n'a pas senti ça de ce côté-là. Mais est-ce que comment on voit ça? Qu'est-ce qui nous reste là pour la paix, entre guillemets, au Moyen-Orient? Est-ce que c'est pensable, en tout cas certainement sous le mandat du président Trump?
Bien, moi, je pense que non, c'est pas pensable sous le mandat du président Trump. Et mon opinion, c'est que oui, il y a une paix qui est possible, mais ça ne sera pas sous le gouvernement Trump. Donc, il va falloir attendre au 3 novembre pour savoir si il y a quelque chose qui va être possible. Mais l'impression que ça me donne, c'est un peu ce qu'on entend par rapport à la place des États-Unis présentement sur la scène internationale, qui ont perdu énormément de crédibilité depuis que Trump a été élu. Donc, par exemple, quand il y a des rencontres sur pour la crise climatique, donc on est poli avec Trump, on le laisse parler, il se présente pas nécessairement pour les discussions sur l'environnement, et là les nouveaux leaders du monde vont discuter de ces choses-là de façon sérieuse. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose qui se produit présentement, et de façon subtile, le Canada a dit bon, mais c'est normal que les deux pays discutent dans ça, mais c'est peut-être une façon d'acheter du temps. Yves l'a mentionné tout à l'heure, il y a des élections qui s'en viennent, donc Donald Trump veut aller chercher des votes, mais en même temps, bon, c'est un peu un plan, je pense, qui est lancé rapidement pour avoir quelque chose pour l'instant. Mais selon moi, ça peut pas se régler sous le gouvernement Trump et ce sera pris au sérieux par d'autres pays plus tard.
Alors, donc, c'est pas donc une affaire à suivre. En tout cas, certainement, peut-être après seulement le mois de novembre, alors les Palestiniens vont attendre encore une solution pour leur situation. Alors, je vous rappelle que le 28 janvier, le président américain Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient. Ce plan de paix est fondé sur une solution à deux États. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence en formule table ronde. Je suis avec Francis Daou, le directeur général de Socabi, Simon Maltais, des éditions Novalis et Bayard Canada, et Yves Casgrain, journaliste indépendant. Alors, on s'en va maintenant à Québec, et là, on va se rappeler qu'on a souligné, et on ne peut pas dire fêté, on a souligné hein, le 3e anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec le mercredi 29 janvier. À pareille date, en 2017, au moment de la prière du soir, un homme armé ouvre le feu sur les quelques dizaines de fidèles du Centre culturel islamique de Québec. Le bilan est de 6 morts et de 8 blessés, dont 6 très graves. À Québec, donc, le 29 janvier, à Québec même, 300 personnes ont participé à un rassemblement citoyen dans l'église catholique Saint-Mathieu. Le premier ministre du Québec, François Legault, était présent. Dans son allocution, le premier ministre a soigneusement évité d'employer le terme islamophobie. Il a préféré parler d'un attentat haineux, fruit de la haine d'un jeune homme. L'accueil tiède qu'il a reçu était tout en contraste avec les applaudissements chaleureux réservés à Boufeldja Ben Abdallah, l'actuel président du Centre culturel islamique de Québec, à la victime Ayman Derbali, rendu tétraplégique par l'attentat, et au rappeur Webster. Ne me dites pas que cette commémoration ce soir n'a rien de politique, a lancé l'artiste Webster. Est-ce qu'on va laisser l'ignorance dicter ce que nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les chroniqueuses, les chroniqueurs, les marchands de haine nous dicter à quoi doivent ressembler nos sociétés? Est-ce qu'on va laisser le gouvernement déterminer ce que les femmes doivent porter? A-t-il lancé en cette soirée de commémoration? Ses propos lui ont valu une longue ovation. Francis, c'était pas nécessairement une commémoration triste, mais ça a été aussi une commémoration très politique, cette histoire-là.
Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était une commémoration qui était politique. J'ai apprécié, François, que vous ayez parlé de la tuerie de la Grande Mosquée, parce qu'on parle souvent de l'attentat. Alors, un attentat, tu sais, moi, on essaie de faire quelque chose. C'est pas un attentat ici, c'est une tuerie. Je pense qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. Et c'est une bonne chose de mentionner que c'est véritablement une tuerie. Maintenant, c'est important de commémorer cet événement-là pour qu'on s'en souvienne, qu'on n'oublie pas l'horreur qui s'est produite il y a 3 ans. Maintenant, c'était un peu, si on peut faire un certain reproche, c'est que, bon, vous avez mentionné, il y avait 300 personnes, il fallait avoir des billets. Des billets, oui. Il fallait être... Alors, les gens qui étaient là, c'est un peu des gens qui étaient, on pourrait dire déjà, c'était prêché à des convertis, des gens qui étaient... c'est pas une critique des personnes qui étaient là, donc les personnes, c'est important pour nous. On veut faire preuve de solidarité et puis d'inclusion. Maintenant, bon, tous les discours qui a pu y avoir, ce sont des discours à des gens qui sont convertis. Et le problème, il est pas à ce niveau-là. Le problème est par rapport aux réactions. Il y a eu des réactions très fortes par rapport à cet événement-là pour des raisons assez surprenantes. La réaction tiède que le ministre Legault, premier ministre Legault a reçue, elle est compréhensible aussi. Il n'a pas voulu parler d'islamophobie. Il veut pas aborder ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est important d'aborder avant que ça déborde, justement, et puis peut-être on pourra en parler davantage de cet aspect-là. Donc, la réaction, elle était bien méritée, je crois. Ouais.
Et il faut dire que pour le premier ministre Legault, pour lui, ça a été le vrai visage du Québec qui s'est manifesté il y a 3 ans au lendemain de cette tuerie-là. Vous avez eu des gestes de solidarité, vous avez eu des gestes de rapprochement et tout ça. Et c'est ce sur quoi il veut particulièrement tabler. Il veut rappeler ça. Mais c'est peut-être davantage des vœux pieux, ne pensez-vous pas, Yves?
Bien, quand il y a des événements comme ça, c'est sûr que on se resserre, on oublie momentanément nos divisions. Mais dans la vie courante, là, c'est un petit peu plus difficile. Non pas qu'on partage plus les mêmes opinions, on a les mêmes opinions qu'au moment de l'attentat, c'est bien sûr, de la tuerie, c'est bien sûr. Mais comme tout le reste, ça se dilue avec le temps. D'où l'importance de la commémoration, de s'arrêter, de réfléchir. Mais si on réfléchit, puis en même temps on ne dit pas les vraies choses, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Je veux dire, il y a tous les années, il y a la commémoration de la Shoah. Mais on dit les vraies choses. Il y a eu une telle chose, combien de morts, l'avancée des recherches et tout ça. Mais si on commémore puis on prend pas le temps de dire les vraies choses, pourquoi c'est arrivé, trouver des solutions, bien, ça sert pas à grand-chose parce que ça risque de revenir.
Alors, c'est intéressant, cet exemple-là de la Shoah. Effectivement, on rappelle des événements absolument douloureux et terribles qui se sont produits, mais on fait toujours un lien avec la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui encore. Il y a des dangers, il y a toujours ce risque de dérapage-là qui existe, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. C'est peut-être ça qui a manqué, en tout cas du point de vue du gouvernement cette année, lors de cette commémoration-là. Allez-y, Simon.
Oui, parce que, bon, tout ce qui est on pourrait dire les données probantes sur les crimes haineux au Québec, ces données-là, on les voit passer dans les médias un court instant, puis quand elles sont publiées par les organismes de statistiques, puis ensuite elles sont oubliées, alors que c'est justement lors de ces commémorations-là qu'elles devraient être mises de l'avant et elles devraient être employées par le gouvernement en place. C'est ce qu'on voit avec les rappels de la tuerie de la Polytechnique aussi par rapport aux crimes haineux contre les femmes. Donc, oui, c'est quelque chose qui a manqué. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une part de ce visage du Québec que le ministre Legault souhaiterait voir davantage, qui s'est manifesté lors de cette rencontre-là. Rappelons-le quand même que ça avait lieu dans une église catholique, qui avait en présence des représentants de l'église catholique, l'église anglicane, des juifs de la capitale. On sait que cet événement-là a permis de rapprocher les différentes traditions spirituelles qui sont présentes dans la capitale à Québec. Donc, cet aspect communautaire-là est présent et même, oui, on peut reprocher le fait qu'il fallait avoir des billets, puis c'était un nombre limité, mais les 300 billets sont partis en un temps record. Donc, cet accueil-là est toujours présent. Il se manifeste toujours d'une certaine façon, mais peut-être qu'il est justement écrasé ou à tout le moins rendu moins visible par un sentiment de peur à l'égard des musulmans.
Alors, un événement peut-être qu'on n'a peut-être pas bien compris dans toute cette histoire-là, c'est qu'après avoir prononcé son allocution et avoir reçu un accueil plutôt timide ou tiède, enfin, des applaudissements polis, là, mais réservés lors de son allocution, François Legault est allé dans son compte Facebook et a fait une publication pour rappeler sa participation à cet événement commémoratif-là et témoigner de sa compassion envers la communauté musulmane du Québec et envers tous tous les citoyens du Québec là, qui ont vécu ce drame-là il y a 3 ans. Ben, ça lui a valu une volée de bois vert. En fait, sur Facebook, des centaines et des centaines de messages haineux, mesquins, souvent qu'on ne pourrait même pas prononcer ici à la radio, ont été lancés dans les minutes. Et avant même de pouvoir aller se coucher, le premier ministre lui-même s'est mis à effacer les messages qui étaient déversés dans son compte Facebook. Ce qui l'a, dit-il, particulièrement ébranlé. Allez-y, Francis, là-dessus. C'est aussi inquiétant, là, une histoire semblable.
Mais c'est inquiétant. C'est peut-être un wake-up call pour un réveil pour le premier ministre Legault, parce que on l'a mentionné tout à l'heure, il veut pas mentionner le mot islamophobie, mais là, il vient d'en avoir une démonstration assez claire sur son compte Facebook. Et j'ai aimé ce que Yves a dit tout à l'heure. Le parallèle qu'il y a avec la Shoah, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur qu'est-ce qui a causé la Shoah. C'est quand on va, par exemple, à Washington, au musée de l'Holocauste, le premier étage au complet est consacré à la question de l'antisémitisme, donc, et non pas au camp de concentration ou à ces choses-là. Donc, tout ce qui a préparé le terrain avant ça, et bon, c'est... parenthèse, ça rappelle beaucoup qu'est-ce qui se passe présentement aux États-Unis, donc cibler des gens, créer de la division. Maintenant, il y a un problème de base, et il va falloir l'adresser, ce problème-là, il va falloir en parler, et pas simplement dire oui, les Québécois se sont rassemblés. Moi, je trouve ça très beau, c'était très touchant, j'avais honte d'être Québécois le 29 janvier 2017, mais la réaction qu'il a eu, je me retrouvais dans ça. Là-dessus, François Legault a tout à fait raison, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable avant que ce problème-là devienne plus grave qu'il l'est présentement. Donc, c'est beau de faire des discours, mais il va falloir qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises rapidement.
Alors, après avoir passé là, quelques heures à effacer les messages, François Legault est allé dormir et il a demandé à son équipe de s'en occuper. Mais il reste que... Qu'est-ce que ça nous dit là, de toute cette histoire-là des médias sociaux? Est-ce que c'est pas l'endroit où maintenant de plus en plus de messages islamophobes là, sont envoyés sans gêne? Allez-y là-dessus, Simon.
Des messages islamophobes et des messages haineux de façon générale, oui. En fait, les médias sociaux, on s'en rend compte davantage dans les dernières années, sont devenus à plusieurs égards des déversoirs de haine et de sentiments qu'on n'oserait pas exprimer en public. La distance provoquée par le fait d'écrire, de taper un écran d'ordinateur sur son cellulaire, la distance qui est créée entre soi et les personnes qu'on vise fait en sorte que, visiblement, en tout cas, certaines personnes se sentent permises de dire n'importe quoi qu'ils ne diraient pas en pleine face, directement face à face avec cette personne-là. Donc ça, c'est un des effets pervers des réseaux sociaux et surtout des éléments anecdotiques ou des commentaires déplacés qui prennent des proportions incroyables parce qu'ils sont repartagés, ou est-ce que des gens qui renchérissent et tout ça. Donc ça, les réseaux sociaux ont tendance à rapprocher des gens qui ont des sentiments haineux finalement et créer une caisse de résonance qui permet à ces sentiments haineux là de se répercuter de façon beaucoup plus grande que ce qu'ils leur feraient dans un contexte normal.
Alors, c'est sans doute, effectivement, la distance permet cela, sans doute, mais en même temps, les écrits restent et c'est même criminel, là, certains propos qui sont tenus. On n'a pas le droit de poser des gestes aussi racistes, là, même si c'est verbal, même si ça reste, même si on va les retrouver dans les prochains jours, dans les prochains mois. Votre nom est associé à ça. C'est clair que vous ne pouvez plus, par exemple, vous présenter aux prochaines élections fédérales ou provinciales. spécial. On va scruter ce que vous avez écrit.
Tant mieux.
Oui, tant mieux, peut-être. Mais allez-y là-dessus, Yves. C'est assez désolant comme situation.
Oui, c'est désolant. Et je pense qu'on en parlait juste avant d'entrer en studio. Puis ce qu'on disait, c'est que je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils écrivent vraiment. Toutes les conséquences que ça peut avoir sur les personnes visées. Et sur eux aussi, s'ils se font prendre, il y a des conséquences. C'est criminel faire ce geste, faire ces propos-là. Même sur Internet, c'est criminel. Alors, ma réflexion là-dessus, c'est je me demande si ces propos-là, ils sont vraiment raisonnés ou ils sont mus par autre chose. C'est-à-dire la peur. Bon, on en parlait tout à l'heure, la peur de quoi? Bon, la peur évidemment de l'autre, mais aussi la peur de l'étranger, mais la peur de disparaître en tant que société. Je pense distinct. Le Québec, quoi, ont cette peur viscérale de tout perdre. Ils se sont battus pour conserver ce qu'ils sont maintenant, et ils voient que ça commence à complètement disparaître.
Puis à vitesse grand V,
c'est ça, les valeurs et tout ça. Et je pense que ça, c'est une réalité qui est quand même réelle. Bon, est-ce que... et je pense que la peur est justifiée aussi. Cette peur-là est justifiée. Mais est-ce que c'est une raison pour jeter son venin sur les autres? Non, bien sûr. Mais ça envoie un message clair au gouvernement, aux intellectuels, c'est que une partie de la population a peur. Et cette peur-là est réelle. Et justifiée aussi. Alors, on fait quoi avec cette peur-là? Comment on peut la convertir en quelque chose de positif? Et je souligne aussi que cette peur-là est dans l'autre camp. Commence à être partagée aussi par les victimes.
Expliquez-nous ça, là.
Ben, on a vu dans la commémoration des témoignages de musulmans qui disaient avoir peur dans leur vie quotidienne. Et commencent aussi à en avoir ras-le-bol. Alors, cette peur-là peut aussi faire en sorte, à mon avis, que certains courants se radicalisent au sein même des musulmans. C'est pour ça que cette peur-là, au lieu d'être diabolisée, faut qu'elle soit confrontée, analysée, et qu'on puisse la transformer, cette peur-là.
Alors, au réconfort de la solidarité vécue il y a 3 ans, succèdent maintenant des notions de peur. Allez-y, Francis.
Des notions de peur, oui, puis je pense beaucoup tout ça est fondé sur une question de méconnaissance. Qui sont les musulmans? Bon, il y a des sondages qui sont parus récemment. Les gens ont... extrapole le nombre de musulmans qu'il y a au Canada, la place de la charia et tout ça, alors que c'est pas une question qui est discutée parmi les musulmans. Et il y a un travail, je pense, d'information qui doit être fait à ce niveau-là. J'écoutais, il y a un professeur de l'UQAM, Frédéric Castel, qui disait, il existe deux types d'islamophobie. Il y a une islamophobie lourde, qui est une islamophobie organisée. Bon, ce qu'on voit, par exemple, avec certains partis là, en Europe, où, bon, c'est structuré, il y a un discours organisé, il y a une haine profonde derrière tout ça. On invite à vraiment un rejet de l'autre. Et puis, il existe une autre forme d'islamophobie qui est une islamophobie mineure ou qu'on appelle une islamophobie commune. Et ce professeur-là dit, c'est ce qu'on a ici au Québec. Et cette islamophobie-là, elle est un peu bon de l'ordre des émotions et se fonde sur la méconnaissance. On connaît pas qui sont les musulmans. On va en parler tout à l'heure avec le cas du coronavirus, mais il y a toutes sortes d'informations qui circulent et les gens ont peur. Ils sont pas au courant qui sont les musulmans et ce qui m'exaspère, ce que je trouve triste, c'est que le gouvernement Legault fait rien présentement pour ça. on a des annonces à la télévision, bon, pour combattre l'intimidation sur les réseaux sociaux, l'intimidation de façon générale. C'est des beaux messages, c'est touchant. Il y a des messages, il y a des annonces au sujet de l'homophobie, de la transphobie. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un message ou une petite annonce de 30 secondes qui parle du fait musulman au Québec? Et je crois que ça désamorcerait beaucoup de peur de bien des gens. Et une autre chose, je crois, qui est un peu absurde, c'est qu'en même temps, il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin d'information au sujet de l'islam. Et pendant que le premier ministre Legault est à Québec, il fait des discours qui sont reçus de façon tiède, eh bien, son ministre de l'Éducation dit « On va retirer les cours de CR, d'éthique et culture religieuse. » Ces cours-là, c'est le seul endroit où les adolescents, les enfants peuvent avoir de l'information au sujet de l'islam, une information qui est vérifiée.
Et objective.
Qui est objective. Et le système est déjà en place. Les cours d'éthique et culture religieuse sont déjà là. Oui, il pourrait avoir une place pour réviser ce programme-là, comme n'importe quel programme, mais on a ici une plateforme intéressante qui existe déjà. Pourquoi pas l'utiliser? Pourquoi la couper et ensuite se retrouver avec des problèmes comme ceux-là?
Alors, c'est certain qu'on va revenir, en tout cas, sur la question du cours éthique et culture religieuse, mais je vous rappelle que le 3e anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec a été souligné le mercredi 29 janvier. Alors, dernière partie de l'émission « Foi et plus de turbulence ». Là, on vous emmène en Chine et on va parler du nouveau coronavirus qui a été détecté dans la ville de Wuhan. En Chine, l'éclosion causée par ce virus serait apparue à la suite d'une exposition à un marché de fruits de mer et d'animaux vivants situé dans cette ville. Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé, et maintenant, en tout cas, de 490 morts, au moins, en tout cas, c'était le chiffre d'hier. Le nombre de porteurs de virus dépasse maintenant 23 500 au niveau de la Chine continentale dans son ensemble. La Chine multiplie les mesures draconiennes afin de contenir l'éclosion. Parmi ces mesures, la mise en quarantaine de facto d'une grande partie de la province où est située la ville de Wuhan et donc de 50 millions d'habitants. En date du 31 janvier, 4 cas de nouveaux coronavirus ont été confirmés au Canada, 3 en Ontario et 1 en Colombie-Britannique. Hier, le gouvernement de la Colombie-Britannique a signalé son deuxième cas de possible coronavirus. La province a envoyé l'échantillon présumé positif au Laboratoire national de microbiologie. Si le laboratoire confirme que l'échantillon est positif, il s'agirait alors du 5e cas confirmé au Canada. Selon le gouvernement canadien, le risque pour les voyageurs canadiens se rendant en Chine est encore jugé très élevé. Le gouvernement du Canada recommande d'éviter tout voyage non essentiel dans ce pays et particulièrement dans la province du Hubei, où est située la ville de Wuhan. Simon, qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas, sur l'attitude de la Chine? Ils n'ont pas certainement pas fermé les yeux, en tout cas, sur un problème semblable.
En tout cas, visiblement, la Chine a mieux réagi que lors de l'épidémie de grippe H1N1, où est-ce que on lui avait reproché d'avoir attendu des mois avant de signaler l'éclosion de cette épidémie-là. Là, on lui reproche d'avoir eu des délais, mais on parle d'un délai d'un mois, c'est-à-dire que les premiers cas sont apparus à la fin novembre, puis ça a été signalé à la fin décembre. Donc, on passe de plusieurs mois à un mois, c'est déjà une amélioration. On sait aussi que la Chine fait des efforts très importants. La question du confinement, je pense que la question, on pourrait dire, du moment où est-ce que l'épidémie est survenue a joué beaucoup, c'est-à-dire que c'est la période du Nouvel An chinois. Déjà que les Chinois se déplacent beaucoup à l'intérieur de leur pays et qu'ils sont très nombreux, c'est une période où est-ce que les gens retournent souvent voir leur famille dans d'autres régions. La Chine a été très, très stricte là-dessus. Il y a plusieurs fêtes qui ont été annulées.
Donc, bon nombre de vols d'avions qui ont été annulés, carrément. Là,
carrément, des contrôles dans les aéroports et tout ça. Donc, la Chine a fait beaucoup. On peut même dire qu'ils ont construit un hôpital pour les cas de coronavirus en 9 jours, qui était fonctionnel depuis hier, si je me rappelle bien. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait.
Un autre mot de Francis ou Yves là, sur le coronavirus et l'implication de la Chine dans ça.
Ben, je pense que j'aborde dans le même sens. Je pense que la Chine a quand même été proactive dans le dossier. C'est pas vraiment traîner les pieds là, pour confronter le virus.
Alors, un bon point pour la Chine. Alors, mais je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin. Il y a une semaine, c'est le Dr Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique au Québec, qui a convié les médias pour rappeler à l'ensemble de la population qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il a demandé aux Québécois de vivre leur vie normalement. « Gardons la tête rationnelle », a-t-il déclaré en point de presse. Il y a des gens qui ont peur des colis qui arrivent de Chine, comme s'il avait de la poudre d'anthrax à l'intérieur. L'inquiétude, je peux vous le dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, c'est une très mauvaise conseillère. Et la peur fait faire des affaires qui n'ont pas de, et je vous passe le mot, mais c'est humain. Je ne peux pas dire que les gens sont fous, ils sont juste normaux. C'est la peur qui fait ça. La peur, c'est une épidémie. Ça rejoint en fait ce que vous disiez sur la peur de l'autre, là, dans ce que c'est, Francis. C'est ce qu'on entend là ici.
Oui, et puis les informations courent extrêmement vite là, par rapport à ce dossier-là, de la mauvaise information. Et bien, c'est ça. Donc, ça se fait extrêmement rapidement. Et ça devient... C'est un cas qui est intéressant parce qu'on parle beaucoup, bon, des réseaux sociaux. On en a parlé tout à l'heure avec la question, bon, de la haine. Il y a pas de filtre, là, avec un ordinateur. Mais là, on a un cas intéressant au niveau de l'information. Qu'est-ce qu'on fait avec des cas comme ça? Comment on réagit? Parce que, bon, il y a des vies qui peuvent être en jeu. Ça peut avoir une influence sur des vies des personnes. Alors, comment on réagit maintenant? Les réseaux sociaux, il y a un avantage. Les nouvelles sont instantanées. Il arrive quelque chose, on a tout de suite une nouvelle à ce sujet-là. Médias traditionnels peuvent pas compétitionner avec ça. Hein. S'il y a une tornade à Mont-Laurier, ben on va pas envoyer quelqu'un, un journaliste aller prendre une photo de la tornade. Il y a déjà quelqu'un dans son salon qui vient de prendre une photo, une vidéo qui vient de la mettre sur les réseaux sociaux. Mais là, on a l'autre côté de ça. Comment on fait pour empêcher une propagation de fausses informations comme ça?
De fausses informations, je rappelle par exemple que sur les réseaux sociaux, il y a un message qui est devenu viral. Il enjoint les gens de se protéger en évitant de manger des nouilles, par exemple.
Alors, c'est bien ça.
Voilà. Alors, j'imagine que le docteur Horacio Arruda a dû sacrer aussi en entendant cette histoire-là. Mais il reste que c'est encore une fois, Simon, c'est aussi la peur de l'autre là, qui est en arrière de tout ça. Il y a les communautés asiatiques, entre autres, là, qui vivent de la xénophobie actuellement.
Oui, puis bon, c'est la peur de l'autre qui nourrit par la désinformation. On parle quand même de la pire crise de désinformation depuis les élections américaines. Et là-dessus, ben, évidemment, puisque la Chine origine... j'ai un lapsus. Oui. L'épidémie origine de Chine, eh bien, qui est-ce qui est visé? C'est les personnes d'origine chinoise ou même de façon plus large, les personnes asiatiques. Par exemple, j'ai reçu hier un message de la commission scolaire de ma fille, le service de police de Longueuil qui nous avisait de bien expliquer le contexte du coronavirus à nos enfants pour éviter les crimes de caractère raciste à l'égard des personnes d'origine asiatique.
Donc de leurs compagnons et compagnes d'école là, qui sont d'origine asiatique.
Exactement. Maintenant, je ne sais pas à quel point jusqu'à présent il y a eu ce genre de manifestations-là qui se sont faites au Québec. On sait que en fonction du coronavirus, je sais que ça s'est déjà fait par le passé à l'égard de d'autres communautés, puis ça se fait ailleurs au Canada aussi. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, et bien évidemment. Puis, mais on parle de la peur de l'autre, mais c'est la peur de l'inconnu. Ce nouveau coronavirus-là, on connaît encore peu de choses à son sujet, donc on extrapole beaucoup. Et un des gros enjeux, c'est la question des moyens de transmission. On sait que ça se transmet que ça peut se transmettre d'humain à humain, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'une personne est contagieuse avant même d'avoir les symptômes, ce qui change oui. toute la donne. C'est ce qui nourrit finalement notre imaginaire de peur.
Alors, un dernier mot là-dessus, Yves-Catherine?
Il y a des cas mineurs, en fait. Bon, je ne sais pas si c'est à Longueuil ou ailleurs, mais en tout cas au Québec, c'est sûr qu'il y a des Chinois, des Asiatiques qui se font, disons, interpeller par les personnes parce qu'ils ont peur justement d'être contaminés ou enfin on leur dit de se tenir loin d'eux. Dès qu'ils toussent, les personnes s'éloignent. Donc oui, il y a des petites manifestations, mais c'est encore mineur, je crois, mais je pense qu'il faut... C'est bien cette initiative de la police de Longueuil de faire des gestes comme ça pour prévenir qu'il y ait des actes malencontreux là, qui soient posés à cause de ça.
Alors, un dernier mot, Francis.
Oui, ben, je crois que c'est une bonne chose, en effet. Et puis, je crois aussi qu'on a une certaine responsabilité nous-mêmes par rapport à ce dossier-là, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, de vérifier nos sources. Hein, quand quelqu'un écrit quelque chose, vérifier est-ce que c'est vraiment, ça vient d'une source fiable, oui ou non. Et quand ce l'est pas, eh bien, d'abord de pas partager cette information-là, c'est-à-dire de vérifier avant de partager une information. Et ensuite, de pas se gêner, on disait les réseaux sociaux, les gens, il n'y a pas de filtre, les gens s'en permettent. Donc, permettons-nous de dire aux personnes qui font circuler de la fausse information, de dire que ce n'est pas une bonne information. Il y a une façon polie de le faire. Il faudrait vérifier. On met un lien sur un site qui est fiable, sur des informations qui sont fiables, et ça fait boule de gomme. Donc, je pense qu'on peut jouer un rôle positif dans ça, nous aussi.
Ben alors, espérons que votre message sera entendu là-dessus. Alors, c'est la fin pour notre émission et c'est le moment où on demande à nos panélistes s'ils ont un livre à nous suggérer, un événement possible ou peut-être une revue dans laquelle ils ont écrit qui vaut la peine d'être mentionné à ce moment-ci. Allez-y, Francis.
Oui, le 12 février, juste à temps pour la Saint-Valentin, il y a le lancement du livre « Sortir la Bible du placard » écrit par Sébastien Donde, le lancement va se faire donc 12 février à 19h à la librairie Pauline sur la rue Masson. L'entrée est gratuite, c'est pas nécessaire de réserver. Pour les informations, il suffit d'aller sur le site de Socabi, socabi.org.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sortir la Bible du placard?
Ah oui, ce serait bien d'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un livre écrit par Sébastien Donde. Un bibliste. On va avoir une discussion là-dessus. Donc, sur la manière que l'amour et la sexualité est traité dans la Bible et qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui.
Ah, très bien. Alors donc, le 12 février, deux jours avant la Saint-Valentin. Allez-y, Yves Casgrain.
Comme il était question de santé mentale dans l'émission, je reviens sur le fait que j'ai une nouvelle chronique dans la revue Notre-Dame du Cap qui porte sur la santé mentale et qui s'intitule « Esprit Saint ». Donc, je vous invite à la lire.
Et maintenant, Simon.
Bien, c'est bientôt le carême. Hein? Comme chaque année, Novalis offre un carnet de retraite pour accompagner les croyants et croyantes. Cette année, il est écrit par Rodin Kasuba. Aussi, nous avons un nouveau beau livre d'art, Crucifixion, qui traite de ce thème à travers les siècles. Et enfin, d'autres titres paraîtront à la fin février, toujours sur le sujet, notamment Un chemin de croix. Donc, restez à l'affût.
Alors, à surveiller aux éditions Novalis.
Bien sûr.
Voilà, alors, l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans deux semaines, soit le mercredi 19 février. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, à l'émission, Mathieu Lavigne animera un épisode en format magazine avec les collaborateurs réguliers Olivier Lefebvre, Jonathan Guilbeault et Philippe Vaillancourt. cours. Aussi, une entrevue à ne pas manquer avec Steven Lapidus, un spécialiste des judaïsmes orthodoxes et hassidiques et professeur à l'Université de Concordia. L'Université Concordia, pardon. Merci à nos invités Yves Casgrain, Francis Daou et Simon Maltais. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenet de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.